Don Quichotte, d'après Miguel de Cervantes. Lecture clé en français facile, copyright clé internationale 2018. Première partie. Le chevalier errant Don Quichotte de la Manche. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait un hidalgo. Il avait une gouvernante de plus de 40 ans, et une nièce d'une vingtaine d'années ainsi qu'un garçon à tout faire. Notre hidalgo avait la cinquantaine. Il était robuste, bien que maigre de corps et sec de visage. Il aimait se lever tôt et adorait la chasse. Pendant ses moments de loisir, c'est-à-dire pratiquement toute l'année, cet hidalgo se consacrait à la lecture des livres de chevalerie à tel point qu'il en oubliait parfois d'aller chasser et d'administrer ses biens. Cette passion est devenue si dévorante qu'il a fini par vendre plusieurs de ses terres afin de s'offrir des livres de chevalerie qu'il s'est mis à lire, de jour comme de nuit, avec acharnement. Son imagination s'est alors remplie de tout ce qu'il lisait dans ses livres, querelles, défis, batailles, blessures, amour, tempêtes et autres extravagances. Le gentilhomme a fini par perdre l'esprit et, dans sa folie, il a décidé, un beau jour, de devenir chevalier errant et de s'en aller courir le monde avec son cheval et ses armes. Aussitôt, il s'est mis à nettoyer son armure, qui avait appartenu à ses arrière-grands-parents. Puis, il est allé voir sa monture, un pauvre cheval assez mal en point. En l'examinant, il s'est dit:
je dois absolument lui donner un nom. Le cheval d'un grand chevalier ne peut pas rester sans nom.
Après 4 jours de réflexion, il a décidé de l'appeler Rocinante, nom qui lui semblait majestueux et sonore. Maintenant, il devait à son tour se choisir un nom. Cette pensée l'a occupé pendant 8 jours. Enfin, il a décidé de s'appeler Don Quichotte et d'y ajouter le nom de sa patrie, la Manche. Et c'est ainsi qu'il est devenu Don Quichotte de la Manche. Il ne manquait qu'une chose pour commencer son aventure: chercher une dame de qui tomber amoureux, car pour lui, un chevalier errant, sans amour, était un arbre sans feuilles, un corps sans âme. Il a donc choisi une jeune paysanne qu'il avait aperçu un jour et dont il était tombé amoureux, bien que cette dernière n'en ait jamais rien su, qui vivait dans une petite ville proche de son village. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo et est donc devenue la dame de ses pensées sous le nom de Dulcinée du Toboso, parce qu'elle était née dans cette ville. Une fois ses préparatifs faits, un beau matin de juillet, alors qu'il faisait une chaleur épouvantable, Don Quichotte a pris sa lance et son écu, est monté sur Rocinante et est sorti dans la campagne. Après avoir cheminé un bon moment, une pensée l'a assailli. Il n'était pas armé chevalier et ne pouvait donc entrer en lice avec aucun autre chevalier. Il a alors pris la décision de se faire armer chevalier par le premier qu'il rencontrerait, suivant ainsi ce qu'il avait lu dans les livres qu'il avait mis dans cet état. Après avoir marché toute une journée sans vivre une seule aventure, ce qui le désespérait, il a vu près du chemin une hôtellerie que, dans sa folie, il a pris pour un château. Il s'y est aussitôt dirigé car la nuit allait tomber. Devant la porte, il y avait 2 jeunes filles qui étaient en réalité des filles de joie. Quand elles ont vu l'étrange personnage armé de la sorte s'approcher d'elles, elles ont voulu entrer dans la maison, mais Don Quichotte a levé la visière de son aume et leur a dit d'une voix forte aimable:
« Ne prenez pas la fuite, belle damoiselle. Étant noble chevalier, je ne vous veux aucun mal. »
Quand les 2 filles ont entendu le mot de « damoiselle » qui, il faut le dire, ne leur convenait guère, elles n'ont pu s'empêcher de rire, ce qui a fâché notre chevalier. Heureusement, l'hôtelier, un gros homme pacifique, est apparu à la porte de l'auberge et tout s'est vite calmé, L'homme s'est occupé de Rocinante et a demandé au nouvel arrivé s'il voulait dîner. Don Quichotte a aussitôt accepté. Il s'est installé à une table, près de la porte, et on lui a servi un plat de morue trop salé avec du pain aussi noir et moisi que ses armes. Mais notre héros n'a rien vu de tout cela. Pour lui, il était dans un château. La morue était une délicieuse truite. Le pain était blanc et croustillant. Les femmes de mauvaise vie étaient des dames et l'hôtelier le châtelain de la demeure. Une fois le repas terminé, Don Quichotte a appelé l'hôte, l'a emmené dans l'écurie, a fermé la porte, s'est mis à genoux devant lui et a dit « Valeureux chevalier, je ne me lèverai que lorsque vous m'aurez accordé une faveur que je veux vous demander. » L'hôtelier l'a regardé, fort surpris, et a essayé de le relever. Il n'y est parvenu qu'en lui disant qu'il lui accordait la faveur demandée. « Je savais que vous accepteriez, sire. Ce que j'implore, c'est que, demain matin, vous m'armiez chevalier. Je passerai la nuit dans votre chapelle afin de pouvoir, une fois armé chevalier, courir les quatre parties du monde pour aider les nécessiteux selon le devoir des chevaliers errants. » L'hôtelier, qui était malin, a décidé de suivre son jeu et lui a répondu qu'il pouvait veiller dans la cour du château et que le lendemain matin, on ferait toutes les cérémonies pour qu'il soit armé chevalier et devienne le plus grand chevalier du monde. Il a aussitôt donné des ordres pour que Don Quichotte passe la nuit dans la basse-cour, près de l'hôtellerie. À ce moment-là, un muletier qui logeait dans la maison est entré dans l'écurie pour donner à boire à ses bêtes. Sans le vouloir, il a touché les armes de Don Quichotte. Ce dernier lui a alors dit d'une voix forte « Oh toi, téméraire chevalier, qui viens toucher les armes du plus valeureux chevalier, prends garde à ce que tu fais si tu tiens la vie. » Le muletier a préféré ignorer ses propos, mais l'a vite regretté. Don Quichotte a levé sa lance à deux mains et il a donné un coup si fort sur la tête du pauvre homme qu'il l'a fait tomber par terre. Voyant cela, l'hôtelier a cessé de rire des plaisanteries de son hôte. Il lui a déclaré qu'il n'y avait pas de chapelle dans son château, mais que cela n'avait pas d'importance. Puis il a couru chercher le livre où il notait ses frais et est bientôt revenu accompagné d'un jeune garçon et des deux demoiselles. Il a ordonné à Don Quichotte de se mettre à genoux, puis, lisant dans son livre comme s'il lisait une prière, il a levé la main et a donné un grand coup sur la tête de notre vaillant chevalier, puis un autre sur l'épaule. Ensuite, il a demandé à l'une des dames d'accrocher l'épée autour de la taille de Don Quichotte, ce qu'elle a fait avec beaucoup de grâce, en s'empêchant d'éclater de rire. En lui saignant l'épée, elle lui a dit « Que Dieu rende votre grâce très heureux chevalier et lui donne bonne chance dans les nombreux combats qu'il devra livrer. » Une fois cette cérémonie, vite et mal faite, terminée, Don Quichotte a décidé de quitter ce château sur le champ. En effet, il voulait rentrer chez lui pour prendre à son service un paysan et en faire son écuyer. Après avoir cheminé pendant 2 kilomètres, Don Quichotte a aperçu une grande troupe de gens. C'étaient des marchands de soie de Tolède en route vers Murcie. En les voyant, Don Quichotte s'est imaginé qu'une aventure se présentait à lui. Il s'est redressé sur son cheval, a pris sa lance et s'est placé au milieu du chemin pour attendre ses chevaliers, car pour lui, il ne pouvait s'agir que de chevaliers. Dès qu'ils se sont trouvés près de lui, il leur a dit d'une voix autoritaire « Que tout le monde s'arrête si tout le monde ne reconnaît pas qu'il n'y a pas plus belle damoiselle au monde que Dulcinée du Toboso. » Les marchands se sont arrêtés pour examiner l'étrange figure de l'homme qui leur parlait, et ils n'ont pas tardé à comprendre que le pauvre diable était fou. L'un d'eux, qui était un peu moqueur, lui a dit « Seigneur chevalier, nous ne connaissons pas la belle dame dont vous parlez. Faites-nous la voir, et nous pourrons vous dire si vos propos sont vrais, ou du moins
montrez-nous son portrait, et même si elle est borgne, pour complaire à votre grâce, nous dirons tout ce qu'il vous plaira. » Ces derniers mots ont mis Don Quichotte en colère. Il s'est précipité avec sa lance sur celui qui venait de parler avec tant d'ardeur et de furie que Rocinante s'est écroulée par terre, entraînant son maître avec lui. Un garçon muletier, qui voyageait avec les marchands, s'est aussitôt approché de notre chevalier, lui a arraché sa lance, l'a cassée en 4 morceaux, puis il s'est mis à frapper violemment le pauvre homme, qui avait bien du mal à se protéger des coups. Enfin, lassé de ce jeu cruel, il a abandonné notre héros et est allé rejoindre les marchands qui s'étaient déjà remis en route. Une fois seul, Don Quichotte a essayé de se relever, mais il n'y est pas parvenu tant il avait le corps meurtri. Un paysan de son village est alors passé par là. En voyant cet homme étendu sur le sol, il s'est arrêté pour lui demander ce qui lui arrivait et il a reconnu Don Quichotte.
« Mon Dieu ! » s'est-il écrié. « Qui vous a mis dans cet état ?»
Mais Don Quichotte a commencé à lui raconter des histoires qui n'avaient ni queue ni tête, si bien que le brave paysan, sans ajouter un mot, l'a hissé sur son âne et l'a ramené chez lui avec Rocinante. Quand ils sont arrivés devant chez Don Quichotte, le paysan a entendu du bruit dans la maison et des cris. C'était le curé Don Pedro et le barbier, maître Nicolas, des amis de Don Quichotte, qui essayaient de calmer la nièce et la gouvernante de ce dernier, car les deux femmes étaient fort inquiètes.
« Voilà 5 jours que mon maître est parti, disait la gouvernante, et nous sommes sans nouvelles. Que lui est-il arrivé? Ce sont ces maudits livres de chevalerie qui lui ont tourné la tête. »
Et la nièce disait la même chose et plus encore.
« Sachez, maître Nicolas, que mon seigneur oncle a souvent passé 2 jours et 2 nuits à lire sans s'arrêter un de ses horribles ouvrages. Ensuite, il jetait le livre, prenait son épée, se battait avec les murs et disait qu'il avait tué 4 géants grands comme 4 tours. Puis il buvait un grand pot d'eau froide en affirmant que c'était je ne sais quel sage enchanteur qui la lui avait apporté. » « Mon Dieu, j'aurais dû vous informer de l'état de monseigneur oncle pour que vous y portiez remède. Il faut brûler ces abominables livres qui le rendent fou, je vous le dis. »«
Ma foi, je suis bien d'accord, » a dit le curé, « et demain ce sera fait. »
Voilà ce qu'entendait le brave paysan. Il allait frapper à la porte quand Don Quichotte s'est mis à crier à tue-tête.
« Ouvrez, je vous prie, au plus vaillant chevalier qui est grièvement blessé !»
La nièce, le curé, le barbier et la gouvernante sont sortis et en voyant leur oncle, ami et maître, ils ont couru pour l'embrasser.
« Arrêtez-vous tous !» a crié Don Quichotte. « Je suis blessé, vous ai-je dit, par la faute de mon cheval. Qu'on me porte dans mon lit et qu'on fasse venir la sage Urgande pour qu'elle me guérisse. »
Le lendemain, pendant que Don Quichotte dormait, le curé et le barbier ont fait ce qui devait être fait, brûler la bibliothèque de leur ami pour qu'il ne trouve pas ses livres quand il se lèverait. Il pensait lui dire qu'un enchanteur les avait emportés. 2 jours plus tard, Don Quichotte, qui se sentait mieux, a quitté son lit et s'est aussitôt rendu dans sa bibliothèque. Quand il a vu qu'elle était vide, il est allé trouver la gouvernante pour avoir une explication.
« Oh, votre grâce !» a dit celle-ci. « C'est affreux. La nuit après votre départ, un enchanteur est apparu sur un nuage. » Il est entré dans la bibliothèque et quelques minutes plus tard, il est sorti en s'envolant par le toit et a laissé la maison pleine de fumée. Quand madame, votre nièce et moi sommes entrés dans la bibliothèque, il ne restait plus un seul livre.
« C'est Freston !» a dit Don Quichotte.
« Je ne sais pas s'il s'appelait Freston ou Friton, » a répondu la gouvernante. Mais en partant, il a crié un mot qui, j'en suis sûr, se terminait en... Ton ?
C'est Freston, vous dis-je, un savant enchanteur, mon ennemi mortel. Je dois un jour le vaincre.
Mais, monseigneur oncle, a dit sa nièce qui avait écouté la conversation sans intervenir, pourquoi ne restez-vous pas tranquillement chez vous? Croyez-moi, tout cela finira par se calmer.
Oh, ma nièce, lui a répondu Don Quichotte d'un ton glacial, on voit bien que vous ne connaissez rien aux choses de ce monde.
La nièce et la gouvernante ont préféré ne pas ajouter un mot, car elles ont compris qu'il allait se mettre en colère. Don Quichotte est resté 15 jours tranquillement chez lui. Il était calme, et il semblait qu'il n'avait pas l'intention de reprendre ses escapades. Il avait de grandes conversations avec ses amis, le curé et le barbier, pendant lesquelles il disait que le monde avait un grand besoin de chevaliers errants. Ses deux amis préféraient se taire pour ne pas le contredire. Cependant, pendant ces 2 semaines, notre héros était allé plusieurs fois voir secrètement un paysan, un brave homme, mais avec peu de plomb dans la cervelle. Il lui parlait des chevaliers errants, de son aventure, et lui promettait monts et merveilles s'il acceptait de partir avec lui comme écuyer. L'homme hésitait, ne savait que répondre. Mais un jour, Don Quichotte lui a dit qu'il pourrait peut-être devenir gouverneur d'une île jusqu'à la fin de ses jours s'il l'accompagnait, car, selon lui, cela était déjà arrivé à bon nombre d'écuyers. Enfin, séduit par ses promesses, Sancho Panza, c'était le nom du paysan, est parti un beau soir avec Don Quichotte, sans prévenir sa femme ni dire adieu à ses enfants. Les deux hommes, l'un sur son âne et l'autre sur Rocinante, ont quitté leur village de nuit sans un bruit.